Cette journée est sous le signe de la rédemption. Il était nécessaire hier d'aborder la théologie de l'incarnation et Monseigneur nous a développé ce qu'était, nous a donné quelques aperçus sur la maternité. Ce qui nous a donné de goûter la grande dignité de Notre-Dame. J'allais dire que cette journée, cette première journée, était un peu l'aspect statique. Mais aujourd'hui, nous allons voir un peu l'aspect dynamique de Notre-Dame. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. Ce qu'elle fera, ce qu'elle a fait à Lourdes, ce qu'elle attend de nous, la dynamique en quelque sorte de nos actions, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'elle a fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle doit faire. Or à Lourdes, eh bien justement, il y a toute cette immense joie, cette maternité qui se développe, qu'elle manifeste donc le 25 mars, avec, nous l'avons dit, la trilogie des trois « Je suis » qui nous plonge dans le mystère de la Sainte Trinité. Et puis il y a avant, eh bien toutes ces phrases que Notre-Dame dira à Sainte Bernadette, la pénitence. Vous savez que Notre-Dame a pleuré à la Salette. On sait peu que Notre-Dame a aussi pleuré à Lourdes. En regardant au loin, elle quitte des yeux Sainte Bernadette, Bernadette, elle regarde au loin et elle pleure. Nous le savons parce que Bernadette a été bouleversée par cette considération en regardant Notre-Dame pleurer. Mais pourquoi souriez-vous? Parce que la dame sourit. Mais pourquoi pleurez-vous? Parce que la dame pleure. Nous avons vu hier une anecdote. Puisque vous êtes un pécheur, Sainte Bernadette avait bien compris. Et Notre-Dame, en venant à Lourdes, doit, c'est ce que nous vous avons déjà dit, doit s'identifier à son fils, ou s'identifie par nature avec l'abbé Cellini, mais aussi avec toute son œuvre, avec sa passion, avec ce pourquoi il est venu ici-bas. Et alors, elle va demander cette pénitence rédemptrice. Pénitence, pénitence, pénitence. Elle va demander de prier Dieu pour les pécheurs, d'aller baiser la terre en pénitence pour la conversion des pécheurs. Cela, elle le dira 3 jours de suite. Cela est très beau et nous n'avons pas le temps de développer. Et c'est tout l'aspect sacerdotal, en quelque sorte, c'est tout l'aspect de Lourdes et le côté rédempteur de Lourdes. À Lourdes, nous l'avons dit, ne peut recevoir de grâce que celui qui se reconnaîtra en quelque sorte pécheur, à moins d'une grâce insigne. Alors ça, il faut bien le comprendre. Alors nous avons demandé à M. l'abbé de Giorna qu'il nous développe, qu'il vous expose la Notre-Dame, cette relation que Notre-Dame a avec le Rédempteur et l'œuvre rédemptrice. Après M. l'abbé de Giorna, cet après-midi, nous aurons une conférence avec Jean-Paul André, qui nous parlera de ce sacerdoce. Et là encore, c'est un aspect complémentaire. Le sacerdoce est celui qui immole la victime. Eh bien, cette conférence aura sa place à Lourdes. Parce que justement, à Lourdes, il y a une dimension sacerdotale, où il y avait, elle était visible avant, et elle devrait être encore visible à Lourdes. Monsieur l'abbé.
Comme vient de vous l'expliquer Monsieur l'abbé Putois, il me revient de parler de la Sainte Vierge co-rédemptrice, de sa participation à la rédemption, et par là peut-être de faire le lien ou le pont entre le mystère de l'incarnation et la relation de la Sainte Vierge au sacerdoce, car tout est lié. Si l'on parle de Marie co-rédemptrice, si l'on parle de Marie coopératrice à la rédemption, si l'on parle de co-rédemption, il est évident qu'on parle d'abord de rédemption, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'on cherche à connaître mieux comment la Sainte Vierge y coopère. On cherche à comprendre, autant que la foi nous le permet, ce que signifie justement cette coopération qu'elle apporte à la rédemption. S'agit-il, de la part de la Sainte Vierge, d'une part égale à celle du Christ dans notre rachat? S'agit-il d'une action de la Sainte Vierge sous celle de son Fils? Dans quelle mesure cette action alors est-elle subordonnée? Dans quelle mesure cette action est-elle particulière? Est-elle différente que celle que nous pouvons nous-mêmes apporter? Selon ce que dit saint Paul, je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voudrais expliquer ce matin assez rapidement. C'est Léon XIII, donc le pape du IIe siècle, qui en parle en 1896 dans une encyclique, Filiuntem Piumque. Marie, dit-il, a coopéré à notre réconciliation avec Dieu quand elle a causé la venue de notre Sauveur par son assentiment donné pour toute la nature humaine sur la demande du messager céleste. Donc Léon XIII dit « Marie a coopéré à notre réconciliation avec Dieu ». Et il donne, je dirais, quand cet acte s'est produit, quand elle a causé la venue de notre Sauveur. Cet enseignement de Léon XIII, qu'il répétera dans une autre encyclique en 1895, en septembre, est repris encore par saint Pédis dans une encyclique célèbre, justement sur la Sainte Vierge, à Diem Illum, le 2 février 1904. Et le pape nous dit ceci, « Parce que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption. » Elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption. « Elle nous a mérité des congruo, comme disent les théologiens, c'est saint Pédis qui parle, elle nous a mérité des congruo ce que Jésus-Christ nous a mérité des condigno. Elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. » Saint Pédis fait allusion au mérite distinct de la Sainte Vierge et de notre Seigneur. L'un des condigno en latin, ça veut dire en stricte justice. L'autre, celui de la Sainte Vierge, des congruo veut dire en convenance. Ils ne sont pas à égalité. Notre Seigneur apporte, nous le reverrons, une satisfaction qui est surabondante pour nos péchés, réparer nos péchés. Et Dieu le Père ne peut pas ne pas accepter cette satisfaction apportée. Elle est tout à fait juste. Tandis que tous les autres, et Marie la première, apportent justement ses mérites des congruo. Il est convenant que, fonction de ce que la Sainte Vierge fait, réalise, Dieu lui accorde ce qu'elle demande. Donc, saint Pédis, voyez, perfectionne, précise un peu ce que Léon XIII avait déjà dit. Et ce texte de saint Pédis est fondamental. C'est un des plus importants pour préciser justement le rôle de Marie dans la rédemption. Il n'empêche que ce n'est pas simplement au XIXe ou au XXe siècle que l'on a parlé de Marie co-rédemptrice. En fait, ce développement du dogme, ce développement de la dévotion mariale prend jour surtout, de façon plus nette, au XIIe siècle. Car à partir de cette époque, on affirme explicitement la coopération de Marie à notre rédemption. Et on précise à cette époque, nous allons voir quelques théologiens, que cette coopération s'est consommée lorsque Marie était avec Jésus-Christ au pied de la croix. Mais c'est une consommation, consommation de quelque chose qui avait commencé à l'Annonciation. Un théologien, Arnaud de Chartres, un fils spirituel de Saint Bernard, parle justement à cet égard de sacrifice d'holocauste, offert simultanément par Jésus et Marie à Dieu. Arnaud de Chartres, qui est mort en 1156, dit ceci, « Donc sacrifice accompli par Jésus in sanguine carnis, dans le sang de la chair, accompli par Marie in sanguine cordis, dans le sang du cœur. » Et il ajoute, ce sont quelques phrases, « Ce que Marie demandait, ce que la mère demandait, le Fils l'approuvait et le Père le donnait. » Au XIIIe siècle, la co-rédemption, si on en parle, cette coopération de Marie, pour être plus juste, se développe encore. Et c'est Albert le Grand, Saint Albert, qui va célébrer Marie comme la coadjutrix et socia Christi, c'est-à-dire l'associée dans un sens très profond, la coadjutrice, si l'on pouvait dire, du Christ dans le mystère de la rédemption. Voyons, on voit désormais se préciser cette coopération. On parle d'association dans un même mystère. Et puis, bien sûr, saint Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église, le fils de saint Albert, ou son disciple, qui dépassera d'ailleurs le maître, émet ce principe riche d'enseignement dans sa somme théologique, lorsqu'il parle de la Sainte Vierge. Il dit que Marie, au moment de l'annonce qui lui fut faite par l'ange, exprima son consentement « loco totius humani nature » à la place de toute la nature humaine pour l'union entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Donc Marie donne son consentement, s'unit intimement à notre Seigneur Jésus-Christ et coopère ainsi à cette œuvre de la rédemption. Saint Thomas montre là déjà mieux cette coopération donc effective. Au XVe siècle, un autre saint bien connu, saint Bernardin de Sienne, qui est mort en 1444, enseigne que quand Marie donna son consentement à l'incarnation, elle comprit qu'elle se consacrait par ce consentement au sacrifice du Rédempteur. Il y a quelque chose de plus là en saint Bernardin, qui nous résume ce que le XVe siècle croit, eh bien c'est que Marie connaît au moment de son consentement à l'incarnation, connaît cette coopération qu'elle apportera toute sa vie à la rédemption. Un autre théologien, Antonin de Florence, qui est mort en 1459, lui dira que Marie est adjutrix nostre redemptionis. Elle est, voyez, encore une fois, un peu comme saint Albert, l'associée de notre rédemption. Cette dévotion, cette adhésion à cette coopération de Marie se développe encore et au XVIe siècle, saint Pierre Canisius, bien connu pour sa lutte contre le protestantisme, affirme que selon la doctrine des Pères, qui avec Irénée ont comparé Marie, cause de notre salut, à Ève, cause de notre damnation, la nouvelle Ève doit être comprise parmi les causes secondaires qui ont coopéré à notre rédemption. La théologie s'affine et on parle là de cause secondaire de la Vierge dans le mystère de la rédemption. Et puis, à cette époque, les protestants se développent et vont, bien sûr, vous le savez, s'attaquer à la Sainte Vierge, mère de Dieu et coopératrice à l'œuvre de son Fils. Alors, en raison de ces attaques, eh bien, la théologie se développe comme d'habitude. Elle précise ce que la foi nous fait croire. Et on a donc, au XVIe et XVIIe siècle, un plus grand travail théologique qui va préciser la coopération de la Sainte Vierge. Suarez, connu pour ses nombreux travaux, montre que Marie, bien qu'elle ne nous ait pas rachetés comme son fils et qu'elle ne nous ait rien mérité des candignos, voilà le nouveau terme, donc en stricte justice, a cependant coopéré à notre salut. Vous voyez que les mots là apparaissent, les mots qu'emploiera ensuite saint Pilis. Et puis, peut-être pour nous plus connus, à cette époque de lutte contre le protestantisme ou contre des déviations similaires, c'est Bossuet, dans un sermon sur la fête de l'Annonciation, le quatrième sermon, qui explique que Marie a coopéré à notre salut par le consentement qu'elle a donné à l'accomplissement du mystère de l'incarnation. Appuyé alors sur ces témoignages, plus sur ces réflexions de papes, de théologiens, qui sont tous fondés sur la Sainte Écriture, sur ce fameux passage de Saint Luc, premier chapitre, qui nous montre tout ce mystère de l'incarnation, il me semble que l'on peut donc commencer à cerner un peu ce que c'est que cette association, cette coopération de Marie en ce mystère de la rédemption, donc du rachat des hommes captifs dans le péché. Marie, c'est ce que diront finalement tous ceux qui en ont parlé, Marie, en prononçant son fiat, devient la mère du Dieu homme. Elle devient la mère du Dieu homme qui est Dieu homme rédempteur. Et elle va donc, Marie, tout subordonner à cette rédemption. Elle est bien la mère de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est Dieu qui s'incarne pour nous sauver. C'est ce que nous chantons dans le Credo. Et Marie va donc s'associer étroitement, nous allons le développer, s'associer étroitement à cette rédemption que Jésus-Christ vient accomplir. Nous le montrerons par partie, nous allons montrer qu'effectivement, à juste titre, et vraiment, en vérité, Marie est notre médiatrice par sa coopération particulière à la rédemption. Nous montrerons cela en trois parties. La première, c'est que par son libre consentement offert à l'Annonciation, à toute l'œuvre du salut, et pas simplement à son début, eh bien Marie, donc, coopère. Elle manifeste un esprit constant, une volonté jamais révoquée de s'associer à ce que Jésus-Christ fait ici-bas. Dans une deuxième partie, nous montrerons que, par le mérite qu'elle acquiert en toute cette œuvre, elle concourt de façon particulière à la rédemption. Et dans une troisième partie, nous montrerons que dans sa compassion extraordinaire, compassion expiatoire, elle concourt, par un mode particulier, à satisfaire pour nos péchés, à réparer l'injure faite à Dieu par nos péchés. Voyons alors la première partie. La Sainte Vierge est vraiment médiatrice parce qu'elle a volontairement coopéré à l'œuvre même de la rédemption. Volontairement, Marie engendre le Rédempteur. Ainsi est-elle vraiment cause de notre rédemption. Toute l'œuvre salvifique dépend en vérité du fiat initial dont Monseigneur vous a déjà parlé. En consentant effectivement à l'incarnation, Marie consent à être mère du Rédempteur. Par le fait, implicitement, elle acquiesce volontairement, car tout est libre et volontaire chez Marie. Elle acquiesce, c'est-à-dire qu'elle est prête à accomplir tout ce qui est requis pour que, selon la volonté et la providence de Dieu, la rédemption et le salut des hommes soient accomplis. Ce consentement initial de sa volonté, Marie jamais ne n'y renoncera. Et elle le tiendra de façon irrévocable toute sa vie. Elle va tout ordonner, elle va ordonner toute sa vie à son Fils Rédempteur. Or le Rédempteur, le Christ, il vient justement pour satisfaire pour nos péchés, payer cette injure immense, infinie, faite à Dieu, et nous acquérir les grâces du salut. Eh bien, si Marie s'associe donc et consent à l'œuvre de son Fils, elle consent à coopérer au Christ pour satisfaire, pour sa part, pour nos péchés, et en même temps pour nous acquérir les grâces du salut. Plus précisément encore, Marie va consentir en trois temps. Premièrement, de façon préparatoire, en tant que, par sa prière fervente, sa pureté parfaite, sa charité ardente et imminente, elle a obtenu, mérité même, des congruo, c'est-à-dire en convenance. Il n'y a pas de stricte justice avec Dieu, mais en convenance, il convenait que Dieu lui accorde ce qu'elle demandait en raison même de la ferveur, de la charité avec laquelle elle demandait. Marie a obtenu, mérité d'être une digne mère de Dieu, c'est-à-dire d'être la créature digne d'être celle qui a été choisie pour être mère de Dieu, choisie par Dieu sans aucun mérite évidemment de sa part. Mais par contre, elle a mérité d'avoir cette dignité en charité, cette éminence en grâce par ses œuvres. Ceci n'est encore que préparatoire, c'est-à-dire que dans ce travail chez elle de purification constante, de croissance, dans l'adhésion au vrai Dieu trinitaire et à ses mystères, eh bien Marie n'exerce pas encore au sens propre une médiation, mais elle pose un fondement à cette médiation par lequel elle deviendra effectivement mère du Christ et notre mère. Dans un deuxième temps, non plus de façon préparatoire, mais de façon essentielle, mais encore incoative, Marie donne son consentement au message de l'ange. Elle dit « Fiat ». Consentement à être mère, non seulement de Dieu, non seulement du Sauveur, mais du Sauveur tel que Dieu l'a pensé, Dieu l'a voulu, Sauveur, Rédempteur, avec tout ce que cela comporte. Et Marie y consent. L'ange l'y invite, elle accepte, et si elle accepte, c'est par amour pour Dieu, bien sûr, mais c'est déjà, de façon incoactive, mais réelle, déjà aussi par amour pour nous. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les pères de l'Église, qui n'ont pas un langage peut-être aussi précis que les théologiens qu'on a vus, les pères de l'Église déclarent que notre salut, au moment de l'incarnation, était en sa main. Persuadés que par la venue du Rédempteur, eh bien, notre salut effectivement commençait et que la Vierge y coopérait en consentant à cette incarnation. Elle joue le contrepoids d'Ève. Et les pères disent à l'envi que comme la perdition du genre humain a commencé par une femme, Ève, ainsi l'œuvre du salut devait aussi commencer par une femme, Marie. Il y a ce balancement de coopération, malheureusement de perdition pour Ève, heureusement de salut de la part de Marie. Et puis, troisième temps de ce consentement de Marie, non plus alors incoatif, quoique essentiel, mais intégral, parfait, achevé, complet, c'est bien sûr lorsque Marie offre sur la croix son Fils. Marie offre son Fils pour notre salut. Au moment de l'incarnation, elle avait enfanté le Rédempteur, mais elle l'a enfanté pour notre salut. Et toute sa vie, elle a renouvelé ce consentement. Quelques témoignages, l'Écriture l'affirme. Prenons par exemple le deuxième chapitre de Saint Luc, lorsque Marie présente Jésus au Temple. C'est la fameuse prophétie du vieillard Siméon. Présentant solennellement son Fils au Temple pour qu'il devienne, selon la volonté du Père, une hostie pour notre salut, elle accepte librement les douleurs, le vieillard Siméon le dit, les douleurs en lesquelles elle va compatir au sens propre, c'est-à-dire pâtir avec, souffrir ensemble son Fils pour notre salut. Voilà un premier témoignage de ce consentement renouvelé de la Vierge, notre rédemption. Mais le plus éminent, bien sûr, est celui qui est manifesté par Marie au pied de la croix et qui consomme son oblation. Elle conjoint au pied de la croix sa volonté à la volonté du Père. Et par autorité maternelle, car c'est bien la mère de Jésus, eh bien elle livre elle-même pour notre salut son Fils. Mais en même temps qu'elle le livre, elle abdique en quelque sorte ses droits maternels sur lui. Oui, elle coopère pour sa part, part de mère, à l'œuvre de notre salut. Elle veut souffrir les tourments que son Fils éprouve en sa chair. Elle les souffrira en esprit. Elle veut y compatir. Elle y compatira en toute son âme. Elle s'unit à son Fils souffrant dans ses plus grandes douleurs. Et son cœur lui-même sera, vous le savez, transpercé, comme l'avait dit le prophète, transpercé par un glaive. Un glaive effectivement intérieur, alors que son Fils extérieurement, manifestement, souffre pour notre salut. Ainsi, la Sainte Vierge coopère à notre rédemption. Elle satisfait pour nos péchés et pour sa part nous acquiert les grâces du salut. Saint Thomas d'Aquin montre justement cette coopération de la Sainte Vierge dans un sermon qu'il prononça pour l'octave de la Nativité. Il dit que la Sainte Vierge a souffert toute l'amertume de la Passion, oui, tout entière. Et ceci pour quatre raisons. En raison d'abord de la bonté de son Fils qu'elle connaît, en raison de la cruauté de ceux qui crucifient notre Seigneur qu'elle saisit mieux que les autres, en raison de la bassesse de la peine infligée à Jésus-Christ qu'elle saisit, et en raison de la cruauté des tourments qu'éprouve son Fils. Oui, Marie est unie vraiment en toutes ses phases, en tous ses aspects, au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est la mère de Jésus et s'associe pour sa part, qu'il nous faudra préciser, à ce que son Fils réalise ici-bas et ce pourquoi il lui avait demandé d'être mère. Deuxième partie, la Sainte Vierge est vraiment médiatrice parce qu'elle nous a mérité des congruos, en convenance, le salut et toutes les grâces du salut que le Christ, lui, a mérité des condignos en stricte justice. La coopération de la Sainte Vierge à toute l'œuvre rédemptrice, du consentement donné à l'Annonciation jusqu'à la mort du Christ, remplit effectivement toutes les conditions du mérite, conditions nécessaires à mériter. D'abord, il y a sainteté éminente. Monseigneur vous en a parlé, il y a sainteté maximum. Il y a, de la part de Marie aussi, charité, c'est ensemble, charité la plus grande, de la part d'une créature. Il y a, et tout ceci est la même chose, il y a conformité parfaite avec la volonté de Dieu et son accomplissement. En particulier, il y a adhésion totale de toute la Sainte Vierge elle-même, en son corps et en son âme. Il y a adhésion à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'œuvre de la rédemption qu'il est venu accomplir ici-bas, s'incarnant en son sein. Il y a donc en Marie un désir réel et un désir maximum, le plus éminent, un désir de notre salut et en conséquence, ordination de toutes les œuvres qu'elle a pu accomplir à cette fin. Cette fin qui manifeste l'amour qu'elle a, qui est le plus haut, et pour Dieu et pour nous. C'est pourquoi, étant considérée l'équité, l'amitié de Dieu, sa libéralité, eh bien, il était convenant, c'est ce qu'on appelle le congruum en latin, ou le décongruo dont parle Saint Pédis, il était convenant que Dieu, voyant ce que Marie réalise, eh bien, accepte tous les actes qu'elle pose pour notre salut, et qu'il accomplisse ce que Marie demande, qu'il accomplisse la volonté de Marie. Ce n'est là, finalement, que expliciter ce qu'elle mérite, et les conditions qu'il doit remplir, telles que saint Thomas nous le dit dans la Somme théologique, à la fin de la première partie de la seconde, question 114, article 6, où saint Thomas nous dit ceci, « Parce que quia enim homo in gratia constitutus, parce qu'un homme est constitué en grâce, car il faut être en état de grâce, rempli de la volonté de Dieu, alors il est convenant, en raison de l'amitié de proportion que Dieu a avec l'homme, eh bien que Dieu remplisse, accomplisse la volonté de l'homme pour le salut d'un autre. » Voyez, Dieu accorde par bienveillance ce que l'homme demande, à condition que justement l'homme demande comme il faut, comme il convient. Donc Marie a bien rempli tout ce qui était nécessaire pour pouvoir mériter en convenance. Dieu lui accorde ce qu'elle demande. Et Marie a pu donc mériter toutes les grâces du salut. Toutes les grâces du salut et pour tous. Précisément parce qu'elle était constituée mère de tous et médiatrice, coopératrice pour toute l'œuvre de la rédemption. Et elle contribue pour sa part alors à conférer le salut à tous. C'est toute la portée du texte de saint Pédis et vous en voyez là l'importance. Oui, Marie coopère pour sa part à toute l'œuvre de la rédemption. Elle est coopératrice dans cette œuvre. Elle mérite pour tous les hommes. Et là, peut-être est-il bon de préciser qu'il y a une différence entre le mérite de Marie et le nôtre. Nous pouvons mériter, nous aussi. Mais il y a une différence, justement, entre ce que nous pouvons mériter et ce que Marie, créature, a mérité. Car la Sainte Vierge, d'abord, a pu non seulement mériter certaines grâces pour les autres, mais elle a mérité toutes et chacune des grâces pour les autres. Et deuxième différence, c'est que non seulement elle a mérité des grâces applicables à chacun des hommes, mais elle a mérité toutes les grâces à acquérir pour tous les hommes, pour le salut du genre humain. Non seulement à appliquer, mais à avoir pour pouvoir appliquer. Oui, il y a vraiment une coopération intime de Marie à la rédemption. Et cette coopération passe par cette œuvre méritoire qu'elle accomplit et qui s'achève au sens de complément, parachèvement, qui s'achève au pied de la croix. Elle est unie au sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit lui-même de façon sanglante. Voilà tout simplement donc comment Marie mérite des congruos en convenance ce que son Fils mérite des condignos. Oui, Jésus-Christ mérite de façon tout à fait juste eh bien, que nous soit appliqué ce que lui-même a obtenu de son Père en s'offrant sur la croix, notre salut, la réparation infinie du péché. Troisième partie, comme je vous l'annonçais, la Sainte Vierge est vraiment médiatrice parce que par sa compassion, elle a satisfait pour nous. Elle a satisfait, certes, imparfaitement, et encore une fois, des congruos en convenance, alors que le Christ, lui, a satisfait des condignos en stricte justice. Il a satisfacere, il a fait assez, il a vraiment fait assez, notre Seigneur, en stricte justice, pour réparer l'offense infinie du péché. Tandis que Marie a fait assez, mais en convenance. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, et ce tout ce qu'elle pouvait est un maximum que pouvait réaliser une créature, et Dieu, en raison de cela, lui accorde ce qu'elle demande. Pour satisfaire, il faut mériter. Le fondement prérequis est la satisfaction, c'est le mérite. Or, comme en Marie, on vient de le voir, il y a mérite des congruos de notre salut, rien n'empêche que soit alors admis aussi de la part de Marie une satisfaction convenante des congruos. Rien n'empêche d'affirmer qu'elle satisfait, qu'elle fait assez pour réparer l'injure du péché. Pour autant, bien sûr, que l'œuvre méritoire est afflictive, chargée de peine et entreprise à la fin pour le but de la réparation du péché. Et là encore, toutes les conditions sont vérifiées en Marie. Cela fait aucun doute. D'abord, elle est mère de Dieu, homme rédempteur. Marie est la mère du rédempteur, qui est le Dieu fait homme. Et en tant que telle, on l'a vu, elle est associée à lui. Elle lui est conjointe dans toute la pénibilité, dans tout le labeur de sa vie d'ici-bas, dans toute cette voie de rédemption qu'il accomplit pas après pas, jour après jour, au cours de sa vie. Marie lui sera associée dans l'humilité de la naissance, crèche de Bethléem, fuite en Égypte. Marie sera associée à son Fils dans cet état de pauvreté dans lequel il va vivre, dans les premières années de sa vie, et ensuite, puisque le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour poser la tête. Et Marie sera associée à cette peine de Jésus-Christ. Marie sera associée aux peines, à toutes les peines de notre Seigneur. Marie sera associée aux larmes de notre Seigneur. Elle souffrira avec Jésus-Christ. Elle souffrira de l'incompréhension de ce peuple qui est le sien. Elle souffrira même de l'éloignement des amis. Elle souffrira de l'éloignement des apôtres. Aucune peine, aucune larme, aucune souffrance ne sera épargnée à la mère. Parce que Marie ne veut pas être épargnée. Elle ne veut pas être épargnée. Elle coopère, elle s'associe, elle a dit fiat à tout ce que Jésus-Christ entreprend. Et puis, aussi, le Fils veut associer sa mère à tout ce qu'il fait. Il y a cet échange des volontés entre le Fils et la mère, entre Jésus et Marie. Oui, Marie ordonne toute sa vie, tous ses actes, toutes ses pensées, tous ses actes, tout, conformément à la volonté de Dieu, conformément à l'œuvre de notre rédemption, de notre salut, tel que Dieu l'a voulu. En conséquence, eh bien, rien n'empêche de dire avec vérité que Marie a satisfait pour sa part, c'est-à-dire des congruents, encore une fois, en convenance pour tous nos péchés, ce que Jésus-Christ, lui, car il est Dieu, ce que Jésus-Christ fait en justice. Et la grandeur, justement, de cette satisfaction, de cette réparation apportée par Marie, eh bien, est à la mesure de ses vertus, à la mesure de sa charité éminente, de sa dignité de Mère de Dieu, de sa plénitude éminente de grâce, qu'on a du mal même à soupçonner sous le regard de la foi. La grandeur de la satisfaction de la Sainte Vierge est à la hauteur de sa pureté même, de la virginité de son esprit, de la pureté de sa foi, car Marie avance, Marie coopère dans la foi, donc dans la nuit de la foi. La grandeur de la satisfaction de Marie est à la hauteur finalement de la profondeur de ses douleurs. On pourrait reprendre, n'est-ce pas, ce que dit saint Paul. La grandeur de la satisfaction de Marie est à la hauteur de la largeur, de la hauteur, de la profondeur, de cette coopération à chacun des actes que pose son Fils. Saint Bonaventure disait, par exemple, au XIIIe siècle, « Elle a payé ce prix de notre rédemption comme une femme forte et compatissante, quand le Christ a souffert sur la croix pour payer ce prix. Alors, en effet, la bienheureuse Vierge fut présente, acceptant ce qui se faisait et concordant avec la volonté divine. Et il lui a plu que le fruit de son sein fût offert sur la croix pour nous. » Oui, il plaît à Marie que ce Fils soit offert pour notre salut. Saint Albert le Grand dira à la même époque, en parlant justement de cette association de Marie à son Fils, qu'elle était, laboris adiutrix, associée à toutes les peines de son Fils, et que ce privilège lui fut accordé pour que justement elle puisse communiquer au sens propre à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Albert parle de communication qui n'est pas simplement un lien assez éloigné. Non, c'est mieux que ça. C'est adhésion à la fin même de l'œuvre entreprise par Jésus-Christ. Adhésion, union intime avec Jésus-Christ. Communication de la passion. Cette passion se communique du Fils à la Mère. Léon XIII, dans une encyclique encore en 1894, le 8 septembre, dira de Marie qu'elle est consors, associée au Christ dans justement sa vie laborieuse, sa vie de peine, sa vie de souffrance pour le genre humain. Léon XIII en latin parle de laboriosé expiationis, une expiation pénible, lourde, dure pour le genre humain. C'est ces textes que nous avions cités, et aussi donc encore une fois saint Pédis dans cette fameuse encyclique « Ad diem illum » du 2 février 1904, où il dit bien justement que Marie s'associe à son Fils. Je reviens sur cette citation. « Elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption. » On voit là l'importance de cette citation du pape, notre saint patron, montrant le rôle de Marie. Parce que Marie l'emporte sur tous, je la répète en sainteté, parce que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, on voit là le mérite de Marie, mais ce mérite est conséquent à l'œuvre du Christ. Elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, ce qui manifeste justement ce que saint Albert appelle cette communicatio passionis, cette communication du Fils à la Mère, de la Mère au Fils. Et elle nous a mérité, reprend saint Pédis, des condignos, elle nous a mérité ce que Jésus-Christ a mérité, des condignos. Elle est le ministre suprême, oui, saint Pédis dit bien, le ministre suprême de la dispensation des grâces. Il y a effectivement un ministère de Jésus-Christ dans cette dispensation. Oui, la Sainte Vierge a donc un rôle tout à fait particulier. Alors on peut préciser cette satisfaction en disant que chez la Sainte Vierge, eh bien, cette compensation de l'injure portée par le péché, eh bien, est apportée par Marie pour sa part, des condignos. Elle se distingue de celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ, la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est première, absolue. C'est celle dont toutes les autres dépendent. La satisfaction apportée par Jésus-Christ est universelle. Celle s'applique à toute la nature humaine, tous les hommes. Elle est justement satisfaction des condignos en stricte justice. La satisfaction de la Sainte Vierge, elle est congrua, elle est de convenance. Elle est donc inégale à celle du Fils, imparfaite eu égard à celle du Fils. Elle est donc à cet égard seconde. Elle est subséquente à la satisfaction du Christ. Et elle n'est pas comme celle de Jésus-Christ universelle, mais particulière. Cependant, elle s'étend bien à des hommes. Elle s'étend jusqu'à des hommes déterminés. Mais elle est universelle dans le sens où elle peut s'étendre à tous les hommes, passés, présents et futurs. Il n'y a pas de limite à cette capacité d'étendre les mérites acquis par Marie à des hommes. Voilà donc la part apportée par la Sainte Vierge en sa compassion au sacrifice de notre Seigneur, au pied de la croix. En conclusion, le Christ, dès son entrée dans le monde, a établi d'accomplir le bon plaisir de Dieu le Père, en raison de son extrême amour pour lui, c'est l'amour du Fils pour le Père. Et en cette volonté du Fils, toujours constante, et toute sa vie, tous ses actes, non pas pris séparément, mais tous ses actes comme ordonné à cette consommation, à cet accomplissement, à sa passion et à sa mort, eh bien, il les a posés pour notre salut. Eh bien, la Sainte Vierge agit de même. Tous ces actes sont eux aussi conjoints sous notre Seigneur. Et ces actes sont finalement cette coopération au mystère de la rédemption, puisque le triomphe de la croix, c'est justement l'accomplissement de la rédemption. Lorsque les Écritures parlent de rédemption, ils parlent justement du sacrifice. Eh bien, Marie s'y associe à chaque instant de sa vie. Tous ces actes sont ordonnés à cet achèvement, à cette perfection, à cet accomplissement de la croix. Et ceci, comme Jésus, dès son consentement initial à l'avènement de notre Sauveur, donc à l'œuvre jamais révoquée de la rédemption. Par son consentement initial, Marie donc a commencé à être et notre mère, et l'adjutrix, l'associé, la rédemption. Alors sur la croix, elle a parachevé, elle a consommé sa coopération, de telle sorte que, désignée par le Christ même, mère des rachetés, eh bien elle est justement, en tant que mère des rachetés, cette sollicitude à perpétuité de notre salut. Et voilà par où, pour reprendre ce que saint Pie X, la Sainte Vierge est ministre dans les grâces distribuées. Pourquoi ? Parce qu'à la croix, le pontife de la nouvelle loi, premièrement comme Dieu homme, offre par l'oblation de soi une réparation infinie et de condignité pour nos péchés. Deuxièmement, parce que le pontife de cette nouvelle loi sur la croix est la tête du genre humain en raison de la plénitude de sa grâce, et a pu nous mériter, répandre pour tous les grâces du salut. Et troisièmement, parce que le pontife est prêtre pour l'éternité, et que toutes ces satisfactions qu'il a offertes, ces mérites qu'il a gagnés, il les destine au salut. Eh bien, de façon parallèle, la Sainte Vierge est associée, saint Pie X dit comme un ministre, disons quasi ministériellement, au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon les trois points de vue sous lesquels le pontife l'a réalisé. D'abord, premièrement, elle est mère du Dieu homme. Par l'oblation douloureuse de son Fils, elle a offert une satisfaction convenante. Deuxièmement, parce que par sa grâce et sa charité éminente envers Dieu et les hommes, eh bien, elle a mérité, associée à son Fils, le salut pour tous, mais en convenance. Et troisièmement, parce que, comme le prêtre offrait pour l'éternité les satisfactions et ses mérites, eh bien Marie est là au pied de la croix, elle est mère des rachetés, et elle a destiné toute sa vie à cette coopération au sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Coopération au sacrifice pour le salut du genre humain, pour l'application des fruits de ce sacrifice. Et alors elle applique elle-même ministériellement, dit saint Pédis, eh bien ses fruits, ensemble avec son fils, qu'elle demande cette application au Père. Voilà donc comment Marie coopère à la rédemption. Le mérite alors et la satisfaction de la Sainte Vierge pourraient paraître comme limités, diminués, mettre une certaine réserve aux mérites infinis de notre Seigneur ou à la satisfaction surabondante du Christ. Au contraire, si l'on comprend justement cette association de Marie, le fait qu'elle soit consors adjutrix, eh bien on comprend qu'il manifeste davantage encore la grandeur, la puissance du mérite de la satisfaction du Christ, car justement lui-même a voulu associer, comme le dit le pape, le saint pape, il a voulu associer Marie à l'œuvre qu'il entreprend. Donc le mérite, la satisfaction de la Sainte Vierge ne sont pas une limite à l'œuvre accomplie par notre Seigneur, comme une part qu'elle aurait prise à la part de notre Seigneur, mais au contraire, elle s'inscrit dans ce que Jésus-Christ accomplit et en manifeste encore davantage l'amplitude. La charité qui donne, c'est vrai, une telle valeur méritoire à la compassion, à l'offrande de Marie, lui est méritée, donnée par la charité du Christ. Et puis le mérite de Marie, nous l'avons répété souvent, c'est important, est de convenance. Car la grâce de Marie n'est pas, comme celle du Christ, une grâce capitale, grâce de la tête. Elle est ordonnée, cette grâce de Marie, il est vrai, d'abord à son union avec Jésus-Christ. Mais justement, parce qu'elle est ordonnée à cette union avec Jésus-Christ, alors elle découle sur nous. Donc, mérite, satisfaction, coopération de Marie ne sont pas une limite, ne sont pas une part prise par Marie à la part de Jésus-Christ, mais au contraire, sont une subordination qui développe, qui montre la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ, sacerdoce pour l'éternité, tête du corps mystique. Et en raison alors de cette coopération bien comprise de Marie, on peut l'appeler co-rédemptrice. Ce terme doit être bien compris, parce que justement il ne s'agit pas de rédemption opérée par deux personnes, chacun en prenant une part. Notre Seigneur la plus grosse et la Sainte Vierge la plus petite, mais comme sur le même pied. Non, il s'agit de coopération, il s'agit de subordination, d'inscription de la Sainte Vierge dans l'œuvre accomplie d'abord par notre Seigneur. Mais il ne faut pas diminuer pour autant ce que Marie accomplit. Il s'agit donc de coopération réelle, effective, prise réelle de part à cette rédemption. Compassion, la vue réelle, mérite réel. Donc il ne faut pas minimiser, au contraire, cette coopération apportée à Marie, par Marie à la rédemption. Toute la médiation de la Sainte Vierge est effectivement essentiellement subordonnée à l'unique médiation de Jésus-Christ et à laquelle elle s'appuie, dont elle dépend et dont elle tire toute sa valeur et sa puissance. Ainsi bien compris, le terme de co-rédemptrice peut donc être utilisé. On peut dire de Marie qu'elle est co-rédemptrice, sachant que ce terme n'est pas très ancien. Il date, semble-t-il, du XVIe siècle. Et vous voyez que c'est l'époque à laquelle, justement, je vous le disais au début, les protestants s'attaquent à Marie, s'attaquent au sacrifice. Et pour défendre ce rôle de Marie, il s'agit bien sûr de dire ce qu'elle fut, de dire cette part prise réelle. Alors on parle de co-rédemptrice, d'association de Marie à la rédemption, au sacrifice. Cela ne veut pas dire qu'avant on ne croyait pas à Marie co-rédemptrice. Mais le terme n'était pas le même. La façon de le dire n'était pas la même, mais équivalente. J'en ai cité quelques cas, saint Albert, saint Thomas. On disait justement qu'elle était adjutrix, associée, qu'elle coopérait à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais on ne parlait pas de co-rédemptrice pour éviter justement peut-être le fait de comprendre deux parts, unies pour faire un tout. Car c'est le Fils d'abord qui rachète le monde. Mais tous les anciens ont dit souvent que le Fils rachète le monde par Marie. Oui, il parle de cette œuvre de Marie en disant toujours que c'est par elle que Jésus-Christ accomplit ce rachat. Saint Bernard, vous le savez, dira de Marie qu'elle est le cou du corps mystique dont Jésus-Christ est la tête. Et ce terme co-rédemptrice, donc, qui apparaît, voyez, assez tard, 16e siècle, ne sera repris dans les textes du magistère de l'Église que très tard. Il a été mis, il apparaît deux fois, en 1908 et en 1913, dans des textes, un, la Sacrée Convention des Rites, et l'autre, dans une déclaration du Saint-Office, où on voit le terme co-rédemptrice. Mais Léon XIII, vous voyez, en 1901, parle de Marie particeps, prenant parti au mystère de la rédemption. En latin, Maria redemptionis humanae facta est particeps. Marie était faite participante de la rédemption. Benoît XV dira en 1918, Dici merito, on peut dire à juste titre, que Marie ipsam redemisse, que Marie a racheté cum Christo, avec le Christ, le genre humain. Pie XI, en 1913, dira de la Vierge, perdolens, donc souffrante, qu'elle participavit, elle participe à l'œuvre de la rédemption cum Christo. Et Pie XII dira, donc de façon plus récente, dans Mystici Corporis, ceci, c'est elle qui, préservée de toute faute, soit personnelle, soit héréditaire, unie à son Fils, par le plus étroit des liens, l'a offert au Père éternel sur le Golgotha, en faisant l'holocauste de ses droits maternels et de son amour, comme une Ève nouvelle compatissante pour les fils d'Adam, entraînés dans la chute de ce dernier. De telle façon que celle qui était corporellement la mère de notre chef pût devenir spirituellement, par un nouveau titre de douleur et de gloire, mère de tous les membres de ce chef. Et, plus précisément, il dira dans l'encyclique Ad Coeli Reginam en 1954, le 11 octobre, « La bienheureuse Vierge Marie doit être appelée reine, non seulement à cause de sa maternité divine, mais encore parce que, de par la volonté de Dieu, elle a eu un rôle dans l'œuvre de notre salut éternel. De fait, dans l'accomplissement de notre rédemption, la Vierge Marie était intimement unie au Christ. Ici Jésus-Christ seul, Dieu et homme, est roi. Dans la propre et absolue signification du terme, on peut dire, dit Pie XII, que Marie, bien que d'une manière diminuée et analogique, participe à sa dignité royale en tant que mère du Christ et son associé dans l'œuvre de la rédemption, dans la lutte contre ses ennemis et dans sa victoire. Marie ainsi, voyez, peut à juste titre, bien comprise, est appelée co-rédemptrice ou peut-être mieux, participante associée à Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption.
Avant de laisser la parole de nouveau à M. l'abbé de Jornin, qui vous entreprend donc sur la question de la rédemption, permettez-moi donc d'insister sur cette notion de rédemption. Elle nous semble capitale à Lourdes, et surtout, particulièrement aujourd'hui, c'est une des notions dont on dispense les fidèles. Il ne faut plus racheter, rédemption voulant dire le rachat. Et il nous semble que essayer de lire le message de Lourdes sans avoir par derrière cette valeur de la rédemption, de donner un prix, de contrebalancer, il y a le poids du péché, et puis il y a le poids, en contrepartie de la vertu. Et cette invitation faite à Lourdes pour contrebalancer justement le poids du péché est très importante. C'est le sens profond de ces appels de Notre-Dame à la pénitence. À cela s'oppose bien sûr tout le problème de l'œcuménisme actuel, puisque plus personne aujourd'hui ne doit se convertir, puisque tout le monde est bon, toutes les religions sont bonnes.
Je vais compléter, ou plutôt terminer, ce que nous abordions ce matin, à savoir le fait que la Sainte Vierge soit co-rédemptrice, c'est-à-dire associée à la rédemption opérée par Jésus-Christ, consommée sur la croix. Je vous rappelle ce que je disais ce matin en trois parties. D'abord que par son libre consentement offert à l'Annonciation, eh bien Marie coopérait à toute l'œuvre du salut. Et pas simplement donc en son début, elle coopérait pour toute la rédemption jusqu'au bout. C'était cette première partie par laquelle j'essayais de montrer que par un esprit constant, une volonté initiale jamais révoquée, Marie avait concouru toute sa vie, jusqu'à la passion et à la mort de son Fils, à l'œuvre du salut. Nous avons vu dans une deuxième partie que Marie coopère à la rédemption par le mérite qu'elle acquiert en toute sa vie, en tous ses actes. Mais nous avons vu que ce mérite est particulier, il n'est pas celui du Christ, mérite de justice, des condignos, mais mérite de convenance. Il convient, en fonction des œuvres qu'elle a réalisées, avec la charité qu'elle a, que Dieu lui accorde ce qu'elle demande. Et troisième partie, nous voyons que Marie, par sa compassion expiatoire, a concouru également, selon un mode particulier de convenance, a concouru à satisfaire, à la satisfaction pour nos péchés, mais concouru de façon justement imparfaite par rapport à la satisfaction parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Fonction alors de ce que nous avons développé ce matin, on pourrait, et c'est ce que je voudrais manifester cet après-midi rapidement, on pourrait lever quelques objections, et elles permettront peut-être de saisir mieux en quoi Marie est effectivement co-rédemptrice. Elles permettront de montrer ce qu'est la co-rédemption. Car la difficulté est de voir le problème sous un aspect, je dirais, trop mathématique et d'imaginer les parts comme des parts d'un gâteau, le Christ apportant sa part et laissant une petite part à Marie et l'ensemble, Marie et le Christ, œuvrant donc pour le salut des hommes. Alors il ne s'agit pas justement de coopération mathématique, de parts quantitatives apportées par Marie, il s'agit d'autre chose. Les mots de Pie XII, qui seront souvent repris, disaient bien justement, et peut-être avons-nous été étonnés, disaient bien que Marie avait pour sa part, il disait d'une manière diminuée et analogique, participé à l'œuvre de la rédemption. Les objections que je voudrais lever montreront, j'espère, ce qu'est justement cette participation diminuée et analogique. Première objection que l'on pourrait faire, ce serait la suivante. Seul le Christ, alors, a pu nous racheter. Et donc, Marie, au sens propre, ne nous a pas rachetés et ne peut donc pas être co-rédemptrice. Là, on semblerait donc exclure Marie de toute coopération, justement en prétendant que Jésus-Christ étant, nous l'avons vu, tête du corps mystique, ayant cette grâce capitale d'agir pour tous, Marie ne peut pas agir pour les autres. Alors il faut tout simplement revenir à ce que nous avons vu. Dire que seul le Christ nous a rachetés n'est pas exact. Marie coopère vraiment à la rédemption, mais voilà la difficulté, elle coopère, nous l'avons vu, non pas en stricte justice, des condigno, mais elle coopère des congruo. Elle coopère donc en agissant pour sa part, selon son mode, de façon imparfaite, Et en cela, c'est une coopération et non pas un agir principal comme celui du Christ qui lui satisfait en stricte justice des condigno et parfaitement. Marie n'était effectivement pas la rédemptrice principalitaire, comme il dit en latin, c'est-à-dire de façon principale et de façon complète et achevée. Mais ce n'est pas pour autant que Marie ne coopère pas et qu'elle est co-rédemptrice. Sa façon de participer réelle est donc, selon son mode, on pourrait dire secondaire, subordonnée, dépendante de la rédemption, de l'agir du Christ. Mais dire dépendant, dire subordonné, dire secondaire, n'est pas pour autant exclure la part, la participation de Marie à la rédemption. Deuxième objection, plus sérieuse sans doute, que peut-être vous vous êtes faite, c'est que Marie elle-même a été rachetée. Et si elle était rachetée elle-même, alors elle ne peut pas être médiatrice de la rédemption, car elle-même finalement est réceptrice de cette rédemption opérée par le Christ. Si elle est réceptrice de la rédemption, elle n'est pas coopératrice, donc pas co-rédemptrice. C'est une objection, si vous voulez, qui saisit mal encore ce que dit Pie XII, cette façon analogique de participer à l'œuvre de la rédemption. Alors effectivement, Marie n'est pas médiatrice de sa propre rédemption. Marie n'est pas co-rédemptrice de son propre rachat. Elle reçoit du Christ rédemption, rachat. Mais, donc quoi qu'elle ne soit pas co-rédemptrice pour elle-même, médiatrice pour elle-même, il n'empêche que pour les autres, elle est bien médiatrice, co-rédemptrice. Et là, on perçoit justement la différence qu'il y a entre la rédemption opérée sur Marie d'abord et la rédemption opérée par le Christ sur nous, par Marie. On voit le rôle privilégié de la Sainte Vierge, car si effectivement elle n'est pas co-rédemptrice d'elle-même, nous l'avons manifesté ce matin, elle est pourtant co-rédemptrice des autres. Si Marie ne coopère pas au sens propre à la rédemption d'elle-même, elle coopère pourtant vraiment à la rédemption des autres, de tous les hommes. Nous saisissons mieux peut-être là ce que veut dire co-rédemptrice pour la Sainte Vierge. Et nous allons aborder une question qui a été développée par les papes et par Lourdes, c'est l'Immaculée Conception. Car Marie, effectivement, n'a pas été rachetée. Donc la rédemption ne s'opère pas de la même façon sur Marie et sur nous, car Marie n'a pas été rachetée selon le même mode que pour nous. Elle a été rachetée, Marie, selon un mode plus éminent que nous ne le sommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez, nous y croyons désormais, depuis la définition de Pie IX, Marie était préservée de tout péché, préservée même du péché originel. Elle est née sans le péché originel. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu besoin des mérites du Christ, qu'elle n'a pas eu besoin du sacrifice du Christ. Mais vous le savez, ce sacrifice s'est appliqué à Marie avant même qu'elle ne soit marquée du péché originel. À l'instant de sa conception, Marie est préservée du péché, des atteintes du péché. Donc, la rédemption atteint Marie en la préservant, tandis que la rédemption nous atteint en nous rachetant, en nous libérant du péché en lequel nous naissons tous, mais nous nous sommes purifiés par le sacrement de baptême. Nous avons là donc mieux manifesté sans doute ce que signifie cette participation à l'œuvre de la rédemption, ce que signifie pour Marie que d'être co-rédemptrice. Effectivement, elle ne l'est pas pour elle-même, mais parce qu'elle a été comme rachetée d'abord en étant préservée. Ce rachat chez Marie se traduit, je dirais, en un autre mot, c'est préserver. Voilà donc une deuxième objection qui permet sans doute de mieux saisir son rôle. Troisième objection que l'on pourrait faire, c'est que la rédemption, l'œuvre même de la rédemption, c'est une œuvre accomplie, il est vrai, toute sa vie par Jésus-Christ. Tous ses actes, nous l'avons vu, sont tous ordonnés au sacrifice de la croix qui est la consommation de ce mystère. Donc la rédemption, dans ce sens-là, est une œuvre. Elle a pour caractéristique d'être vraiment une. C'est une œuvre. Et comme toute œuvre qui est marquée de l'unité, elle est indivisible. C'est un tout, la rédemption. Alors si on poursuit un petit peu l'objection de tout à l'heure qui tendait à dire que la rédemption ne s'est pas faite de la même façon, selon un même mode, pour Marie que pour nous, est-ce que ce n'est pas atteindre à l'unité, à l'indivisibilité de cette rédemption opérée par Jésus-Christ ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement comme deux rédemptions ? Une pour Marie et une pour nous. Une du Christ directement sur Marie et une du Christ par Marie sur nous. Et lorsque là, on aurait une rédemption comme partagée, comme un peu duelle. Eh bien, il faut revenir encore une fois au principe. Si c'est vrai que la Sainte Vierge n'a pas été rédemptrice de soi, elle a pourtant été des autres. Nous avons donc là à devoir préciser encore ce que signifie co-rédemptrice. Dire que l'œuvre de la rédemption est une, indivisible, cela veut dire que la cause principale, la cause parfaite, perfective de cette rédemption, c'est Jésus-Christ, lui-même. Et c'est cette personne qui est Jésus-Christ qui assure justement à cette œuvre toute son unité, sa perfection. Mais dire que la rédemption est une œuvre une, indivisible, en tant qu'elle est justement opérée par Jésus-Christ, une personne, la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée, une personne une, n'exclut pas le fait qu'une cause autre s'y adjoigne, soit associée. Et dans ce cas-là, cette cause autre qui est associée à la rédemption opérée principalement par le Christ, c'est une cause qu'on appellera secondaire, elle est justement subordonnée, dépendante à la première. Il y a toute la perfection, je dirais, de la rédemption opérée par Jésus-Christ manifestée là. Pour comprendre cette question importante de la subordination de Marie au Christ, il faut saisir qu'aucune cause secondaire, aucune cause dépendante n'agit sans la motion continuelle, efficace, réelle de la cause première. Pour prendre un exemple peut-être trivial, mais afin d'illustrer cette difficulté, dans un train, il y a souvent une locomotive, un moteur, et puis une kyrielle, une série de wagons. Un wagon intermédiaire va mouvoir le wagon qui est derrière lui, mais il ne peut mouvoir le wagon qui est derrière lui que s'il est mu lui-même à son tour par la locomotive. Et vous voyez que c'est dans un même acte. C'est en même temps que le wagon du milieu est mu par locomotive, qu'il meut le wagon qui est derrière lui, disons le dernier. Le dernier wagon, il est mu en même temps, simultanément, par le wagon intermédiaire et par la locomotive. Mais ce dernier wagon est mu par l'intermédiaire, et ainsi s'adjoint à la motion de la locomotive. Eh bien, ainsi en est-il de la rédemption. C'est le Christ qui est cause principale de la rédemption. Et cette rédemption s'applique immédiatement sur Marie. Cette application, on l'a vu, est une préservation du péché originel, de tout péché, de toute atteinte du péché même. Marie est absolument pure, créature absolument pure. Et cette rédemption qui s'applique donc du Christ à Marie, venant du Christ comme cause principale, passe jusqu'à nous par Marie, qui dès lors est cause secondaire et cause subordonnée, sans diviser la rédemption opérée par le Christ. Il y a distinction d'aspect, mais il y a, je dirais, simultanéité d'action, comme pour un wagon. Le dernier est mu et par la locomotive et par l'intermédiaire. De même, nous sommes rachetés par le Christ, mais le Christ par Marie. C'est simultanément que Marie nous vaut cette satisfaction, nous vaut la libération du péché, dans la mesure où elle-même est mu et racheté par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout un. Lorsque donc on dit que la rédemption est une œuvre une, indivisible, parce qu'elle est l'œuvre même de Jésus-Christ qui ne peut pas être partagée, cela n'exclut pas l'action de la Sainte Vierge. Effectivement, c'est deux points de vue différents, et c'est important à saisir. Important parce que sinon on aurait tendance à ou bien descendre Marie jusqu'à nous, et c'est atteindre la dignité de sa personne, ou bien évacuer le rôle de Marie, ne le faisant plus que subsidiaire, accessoire, n'en voyant plus la médiation. Voilà donc le point crucial à saisir pour comprendre combien Marie est effectivement co-rédemptrice, sans être ni le Christ ni nous. Elle est, comme dit saint Bernard, de façon admirable, elle est bien ce coup du corps mystique. Et voilà un exemple meilleur, certainement, c'est que, effectivement, toute l'influence de la tête sur le corps passe par le cou, mais cette influence est actuellement, je dirais, dans un même acte, et dans le cou et dans le corps. Il n'y a pas des influences successives du cou au corps. Ainsi donc agit Jésus-Christ sur nous, ainsi nous rachète-t-il. Lorsque donc, sur la croix, Jésus s'offre à son Père, dans cet acte d'offrande du Christ à son Père, qui nous vaut rédemption, qui nous vaut rachat, qui nous vaut libération du péché, en cet acte même, la Sainte Vierge est associée, est conjointe. Elle est vraiment conjointe à la passion du Christ. Et l'on voit certainement, je le souhaite, beaucoup mieux pourquoi le mot de saint Albert est juste. Communication de la passion. L'acte d'offrande du Christ se communique à l'offrande de la Sainte Vierge, offrande du Fils au Père, et par là, du sacrifice pour nous. C'est un même acte accompli, et par le Christ et par Marie, mais sous deux points de vue différents. Car le Christ l'accomplit comme cause principale, comme chef du corps mystique, ayant cette grâce capitale, tandis que la Sainte Vierge l'accomplit effectivement de façon secondaire, subordonnée, comme la mère du Verbe incarné, celle qui offre. Mais il n'empêche que dans cet acte de communication des deux, nous sommes rachetés. Et tous les hommes bénéficient justement de cette rédemption, causée donc principalement par Jésus-Christ, secondairement par Marie, mais dans un même acte encore une fois. Voilà ce que signifie Pie XII, qui pouvait nous paraître peut-être trop diminutif, comme il le dit lui-même. Il parlait, encore une fois, de façon diminuée et analogique. Et nous avons peut-être réagi, ou bien nous avons dit c'est descendre votre mari. Au contraire, nous n'avons pas saisi, parce que c'était difficile, ce qu'il signifiait par analogique. Tout est là. C'est saisir que dans un acte, un seul, dans cette communication d'actes, la rédemption est opérée. Chez Marie par préservation, péché originel, de toute atteinte du péché, chez nous par libération. Voilà pourquoi Marie peut être dite co-rédemptrice. Il ne s'agit pas, vous le voyez, de participation donc mathématique, il ne s'agit pas de part apportée à celle du Christ, il ne s'agit pas de complément apporté par Marie au sacrifice du Christ qui est parfait en lui-même, mais il s'agit pourtant réellement d'une participation au sacrifice de Jésus-Christ. Donc il y a vraiment médiation, mais pour sa part. Voilà donc les objections qui manifestent, je l'espère, mieux encore ce que signifiait donc le fait que Marie soit co-rédemptrice. Elle est justement donc celle qui participe, celle par qui passe notre rédemption. Et vous voyez alors que si le terme est moderne, puisque je vous disais ce matin qu'il date du XVIe siècle, eh bien vous voyez que peut-être, finalement, la terminologie plus ancienne était plus précise. On pourrait penser qu'un seul mot fait mieux comprendre co-rédemptrice, mais on en voit les dangers. Alors que les siècles plus anciens disaient associée à Jésus-Christ, participante au mystère de la rédemption du Christ, communiquant à la passion et à la rédemption du Christ, et ainsi développait mieux ce qu'un mot seul peut trop rassembler jusqu'à peut-être confondre. Voilà comment donc il faut croire à Marie co-rédemptrice, et voilà, je pense, qui manifeste encore mieux toute la portée de la phrase, de la citation de saint Pie X, qui résume admirablement, comme aucun autre pape ne l'a fait, comment Marie intervient. Ce texte est fondamental, je le relis pour conclure. « Parce que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ. » Et on a là le, comme on dit, permettez-moi le terme technique, le formel, c'est-à-dire la raison principale. C'est en raison même de cette union de Marie au Christ que tout le reste s'enchaîne. Elle a été associée par Jésus-Christ. Et on a là dit admirablement le rapport des causes. C'est Jésus-Christ, cause principale, qui associe Marie, cause secondaire, et montre là sa puissance. Donc, elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que ça signifie? Il explicite, elle nous a mérité des condignos en convenance, ce que Jésus-Christ nous a mérité des condignos en justice, et elle est le ministre suprême, il n'y en a pas de plus haut, de la dispensation des grâces que désormais nous recevons et nous recevons. Il ne peut donc pas être possible de parler justement de libération du péché, de satisfaction, de rédemption finalement sans Marie. Voilà donc manifesté, je le souhaite, je l'espère, encore mieux, le triomphe de Marie et combien finalement il est bon de le manifester à Lourdes. Puisque c'est dans cette affirmation de l'Immaculée Conception, finalement, que l'on voit comment se distingue cette rédemption opérée sur Marie et sur nous. C'est à Lourdes, finalement, qu'on comprend mieux encore le rôle de Marie, et c'est bien que nous y soyons.
Je ne sais pas, je ne fâche pas.